Chapitre 33. Inspection sanitaire. 19h07, quai de Bois-Guilbert, Rouen. Il y avait déjà une impressionnante file d'attente devant le surcouf. Des personnes âgées. 5 hôtesses, toutes coiffées du même béret de matelot bleu à pompons rouges, tentaient, au pas de course, de vérifier des cartons d'invitation et d'agripper les croisiéristes grisonnants pour les faire monter sur le pont. Les inspecteurs Ovid Stepanou et Jérémy Mézinguel dépassèrent quelques invités pour s'approcher de l'embarcadère. Jérémy Mézinguel interpella une hôtesse, grande et filiforme. Elle passa devant l'inspecteur stagiaire en coup de vent, armé d'un stylo et d'un bloc-notes, le regardant à peine. Mézinguel continua de mâchonner son chewing-gum et sortit avec nonchalance sa carte de police. Lorsque la fille repassa, elle leva les yeux et s'arrêta net. « Inspecteur Jérémy Mézinguel, voici l'inspecteur Ovid Stepanou. Nous souhaiterions voir votre capitaine. » Dans les instants qui suivirent, un mouvement de panique dérégla brutalement l'organisation de la fourmilière. Le capitaine sortit vers eux. Il avait une 50aine d'années, un catogan de jeune premier et l'arrogance des rusés qui connaissent les ficelles pour gagner de l'argent. « Patrick Baudouin, je suis le capitaine du surcouf. J'espère que c'est urgent, parce que j'ai sur le pont 110 petits vieux à promener, nourrir, abreuver et coucher avant 10h du soir, alors je suis un peu charrette. » L'inspecteur Mézinguel sortit un mandat de perquisition. Le juge avait finalement accepté de le signer une heure plus tôt. Baudouin regarda le document avec un air ahuri. « Vous êtes des inspecteurs sanitaires ? C'est dingue, vos collègues sont déjà passés avant-hier. Tout est ok, j'ai les papiers, la chaîne du froid et tout le reste. Le bateau est nickel !» Jérémy Mézinguel leva la main. « Stop là, capitaine, on est de vrais inspecteurs. De la police judiciaire, avec de vrais flingues et de vraies menottes. On vient pas pour la chaîne du froid. On veut juste que tu nous ouvres tes frigos. »
« C'est juste une routine, » ajouta Ovid Stepanou pour apparaître un peu plus conciliant.
Patrick Baudouin soupira et leur fit signe de le suivre. Ils montèrent sur le pont, descendirent d'un étage jusque dans l'arrière-cuisine. Ils se retrouvèrent face à 5 immenses congélateurs.
« La nuit, » demanda Stepanou, « tout ça est bouclé ?»«
Bien entendu, » répondit le capitaine comme si c'était une évidence. « Sous cadenas et sous alarme, aucun risque. On est obligé, à cause des assurances. Et puis, de toutes les façons, j'ai pas envie que le premier type venu vienne se servir chez moi. J'en ai pour plus de 10 000 € de bouffe là-dedans. »«
Vous n'avez pas constaté d'effraction ces derniers jours ?»
continua Ovid.
« Non, rien, rien du tout. »
Soudain, le visage de Baudouin s'éclaira.
« Ok, je comprends. Vous venez à cause du cadavre du Mexicain qu'on a retrouvé devant le bateau. »
Ça s'est passé la nuit. On n'a rien vu, rien entendu. Personne n'a pu se cacher chez moi, je peux vous l'assurer. Tout est bouclé la nuit. »
Pendant la tirade du capitaine, Ovid Stepanou avait ouvert une mallette en aluminium. Il confia une paire de gants à Mézinguel, en enfila lui-même une autre et attrapa une petite lampe torche.
« Ok, capitaine Baudouin, on va devoir faire notre travail. »
Les inspecteurs ouvrirent chacun un congélateur et commencèrent une inspection minutieuse. Le capitaine les regardait avec une panique croissante.
« Vous cherchez quoi, au juste? Vous êtes vraiment de la criminelle, pas de la sanitaire ?»
Ou bien Baudouin était sincère, ou bien il jouait très bien la comédie.
« Il n'y a pas de cadavre découpé en morceaux là-dedans »
crut-il bon d'ajouter. Ou bien il était con. C'est dans le 4e congélateur, après avoir soulevé un 1ème kilo de viande congelée, Ovid Stepanou repéra les cheveux, tout au fond. Un intense sourire dévoila ses dents noires. Il appela son partenaire. Ils se munirent d'un attirail sophistiqué de pinceaux, pinces à épiler et éprouvettes. Chaque poil et chaque cheveu, une dizaine au total, se retrouva enfermé précieusement dans une éprouvette de verre, elle-même calée dans la mousse capitonnée de la valise en aluminium. Sous le regard incrédule du capitaine et de la plupart des hôtesses, les deux inspecteurs quittèrent le bateau sans un mot de plus. Patrick Baudouin resta une longue minute silencieux, semblant réfléchir à ce qui venait de se passer. Il constata que l'ensemble de son équipe, en particulier les 5 jeunes femmes, délaissant leurs hôtes grisonnants, l'interrogeaient du regard.
« Et alors ? hurla-t-il. On va pas en faire une pendule pour trois poils de cul. Ils vont pas fermer le rafio pour ça. Allez, au boulot, les filles. Vous voyez pas que papy et mamie ont les crocs ?
Il regarda disparaître les inspecteurs au bout du quai en marmonnant entre ses dents.
Je le savais bien qu'ils étaient de la sanitaire.
Un grand camion blanc, très long, d'apparence banale, était garé sur la file du bus du Mont-Riboudet, à un endroit pourtant strictement interdit. Trois policiers en uniforme montaient la garde devant le véhicule. Les inspecteurs Stépanou et Mézinguel s'approchèrent. Un individu en blouse blanche sortit de l'arrière du véhicule.
« Inspecteur, vous avez les échantillons ?»
Stépanou acquiesça et lui confia la mallette en aluminium. L'homme en blouse blanche allait remonter dans le camion.
« On peut entrer pour voir ?»
demanda presque timidement Stépanou. L'homme en blouse blanche le regarda avec un sourire indulgent.
« Vous n'êtes jamais entré dans un LAMAS, inspecteur ?»
Stépanou et Mézinguel répondirent par la négative.
« Ce n'est pas étonnant, remarquez. Il n'y a que trois laboratoires mobiles d'analyse scientifique en France. Celui-ci est le plus perfectionné. On est arrivé à midi. Le ministre a donné le feu vers hier soir, avant la capture de votre toxicomane. L'Armada, c'est devenu un vrai enjeu national avec vos millions de touristes. Ça valait le coup, selon lui, de déplacer le labo ambulant. Remarquez, il est fait pour ça. »
Les inspecteurs entrèrent dans le LAMAS. L'intérieur du camion était compartimenté comme le modèle réduit d'un laboratoire scientifique. Cinq personnes, toutes en blouse blanche, s'affairaient autour d'écrans d'ordinateur. Mézinguel siffla impressionné.
« Et depuis ce camion, vous pouvez tout faire ?»« Oui, » répondit l'homme en blouse blanche. « Autopsie, balistique, biométrie, empreinte digitale, test ADN et je vous en passe. Le tout avec le top de la technologie de pointe. »
Ovid Stépanou laissa son regard courir sur l'étonnant laboratoire.
« Et pour notre test ADN, ça va prendre combien de temps ?»« Pour comparer deux cheveux, les échantillons que vous venez de nous amener avec le profil ADN de Mungaraï, vous connaissez le protocole, inspecteur. Lorsqu'on a une amorce, comme c'est le cas ici, la recherche des réactions de séquence prend à peine 10 minutes. » Le point le plus long du protocole est la lecture du résultat. Mais avec ce type de matériel, on n'a plus besoin de pratiquer le séquençage à la main. C'est ce qui prenait plusieurs heures. Avec les séquenceurs automatiques, maintenant, il y en a pour quelques minutes. Vous aurez des premiers résultats dans 20 minutes, mais ils ne seront fiables qu'à 99%. Pour un résultat officiel, il faudra attendre demain.
Mézinguel siffla encore une fois. Ovid Stépanou aimait bien, en règle générale, travailler à l'ancienne. Mais là, il était bluffé. Tout juste 18 minutes plus tard, l'inspecteur Stépanou sortit son téléphone portable.
« Allô, Gustave ? C'est Ovid. »«
Alors ?»«
Bingo ! Je sors du LAMAS. Ils ont fait les premiers tests ADN. Ils sont formels à 99%. » Les cheveux que l'on a retrouvés dans le congélateur du Surcouf sont bien ceux de Mungaraï. Le cadavre du marin mexicain, après avoir été poignardé, a été planqué dans le congélo de ce bateau promenade. Vous savez ce que ça signifie, patron. La nuit du crime, Nicolas Neufville était en train de discuter avec le capitaine du Surcouf, Patrick Baudouin. Quelques minutes plus tard, le cadavre de Mungaraï a été planqué dans le congélo du Surcouf. C'est évident. Le jeune Mungaraï a vu ou entendu un truc qu'il n'aurait pas dû. Ils l'ont buté, ils l'ont planqué où ils ont pu et s'en sont débarrassés au petit matin sur les quais déserts.
Devant le bateau. Ce n'est pas bien malin.
Je sais, ils ont peut-être été dérangés. Ils n'ont peut-être pas eu le choix.
Il t'a semblé comment, le capitaine du Surcouf ?
Sincère. Bizarrement, il avait l'air surpris que l'on débarque. S'il n'y avait pas toutes ces preuves sous mon nez, je dirais qu'il n'y est pour rien. Mais il m'a redit que tout était bouclé sous alarme la nuit. Aucune effraction. Il n'y a pas d'autre version possible, Gustave. On ne peut tout de même pas imaginer que quelqu'un poignarde Mungaraï, prenne le risque de rentrer par effraction sur le Surcouf, dissimule le cadavre dans un congélateur, ressorte le cadavre 3 heures plus tard, le dépose sur les quais et efface toute trace d'effraction.
« Tu as raison, Ovid, »
admit le commissaire.
« Et je vois encore moins Daniel Lovici faire ça. Je sens plutôt que cette affaire se resserre dangereusement autour de Nicolas Neufville. »
« Ouais, peut-être. Mais on n'a fouillé que dans une direction aujourd'hui. On n'a pas eu le temps d'avancer beaucoup sur la deuxième piste. La question des tatouages, la marque au fer rouge, les messages en espagnol. Tu connais ma théorie sur la chasse partie, le complot de pirates anarchistes.
Ovid,
fit la voix du commissaire Paturel.
C'est moi qui vais jouer les troubles fêtes, ou les rabat-joie, comme tu veux. Mais admets que pour la piste du Surcouf et de Nicolas Neufville, on commence à avoir des preuves beaucoup plus concrètes. On ne peut pas tenir les deux pistes à la fois, Ovid.
À voir. Si tu veux mon avis, un avis optimiste, pour une fois, je crois qu'il y a forcément un moment où ces deux pistes vont se rejoindre.